JDL TV, le biocarburant a-t-il toujours le vent en poupe? Pour en parler, nous avons accueilli Étienne Valtel, directeur de la société Altens. Et Erol Setinta, négociateur en biocarburant pour la société Falaise Énergie Alternative sur le plateau de la JDL TV au salon JDL Expo 2024.
Nous nous retrouvons pour ce début d'après-midi sur la JDL TV pour parler de biocarburant. Et nous allons voir si ce carburant, nouveau carburant, a toujours le vent en poupe. Avec deux invités, Étienne Valtel de la société Altens. Bonjour Étienne.
Bonjour Marion.
Et avec Erol Setintas, négociateur en biocarburant pour la société Falaise. La France est un des pays aujourd'hui qui a le plus développé le biocarburant. Il en existe plusieurs types. On en avait déjà parlé l'année dernière. On avait fait plutôt un bilan un peu plus technique. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous donner quelques éléments de marché? Depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé? Ça évolue positivement, négativement? Où on en est?
Effectivement, on est parti de pas grand-chose, parce que ces solutions sont encore relativement nouvelles. Il faut imaginer que c'est depuis 2018 que les biocarburants sont autorisés pour être vendus purs pour des flottes de transporteurs, etc. Donc depuis 2018, il s'est passé beaucoup de choses. Il a fallu faire connaître ces produits. D'abord le Bessan, grâce à la force agricole de la France. Donc ça, c'est plutôt un grand succès. Le marché est toujours très dynamique, mais aussi parce qu'on a su ajouter des nouvelles solutions biocarburants à ce Bessan. Typiquement le HVO100, qui est un produit un petit peu plus flexible, on va dire. On pourra y revenir après. Donc cette diversification des offres et cette dynamique a supporté le marché. Alors, ça reste marginal dans l'univers des produits fossiles. Il faut imaginer que le monde du transport, si on se focalise sur le transport, c'est 9 millions de mètres cubes de gazole. Aujourd'hui, on estime le biocarburant entre 400 et 450 000 mètres cubes. Donc, on reste sur une goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau qui quand même commence à se ressentir sur le marché, puisqu'on était à zéro il y a 6 ans. C'est des produits qui ont su répondre à des attentes des utilisateurs. D'abord parce qu'on se rend compte qu'on a un besoin de décarbonation qui est de plus en plus important et qu'un seul produit ne suffira pas à répondre à tous les usages. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on sache au fur et à mesure étendre ce panel de solutions. Je vous ai donné quelques tendances de marché. Si on se réfère par rapport à l'année dernière, on peut dire que par exemple sur le HVO, on estime que le marché a presque doublé. Donc c'est quand même une dynamique forte et on espère que ça va continuer dans les années à venir.
On peut faire un rappel rapide entre HVO et Bessan?
Bien sûr. Alors le Bessan, c'est celui qui a le plus de recul sur le marché français.
Mais ça a été le premier.
Exactement, tout à fait. Maintenant, c'est plutôt un produit justement très français. C'est-à-dire que les autres pays européens reconnaissent beaucoup moins le Bessan, ce qu'on peut retrouver justement sur les homologations de motorisation. On pourra y revenir après, mais effectivement, c'est des grosses tendances. Donc le Bessan, c'est un ester, donc c'est un produit chimique, basiquement, qui est compatible avec les moteurs diesel, mais qui n'est très différent chimiquement entre un gazole et le Bessan est un autre produit. Le HVO, au contraire, c'est vraiment le frère jumeau du diesel, donc c'est un gazole, mais un gazole synthétique. Et c'est justement ce qui fait sa facilité d'usage et sa compatibilité avec toutes les motorisations diesel existantes.
Erol, chez Falaise, vous êtes distributeur de carburant.
Oui.
Donc tout type de carburant, à la fois fossile et du biocarburant.
Du biocarburant, tout à fait.
Depuis quand vous proposez à vos clients, qui sont des transporteurs, du biocarburant?
Nous commercialisons du carburant depuis une trentaine d'années. Et depuis 3 ans, donc, nous avons pris le virage des biocarburants. Et on a on est plusieurs confrères, être incontournable un petit peu dans le milieu des biocarburants. Et depuis 3 ans, on a démarré avec le Bessan initialement. Et depuis 1 an et demi, on s'était un petit peu lancé également dans l'XTL. On a une très bonne dynamique. Je rejoins un petit peu Étienne sur le fait que les biocarburants ont pris une vraie dynamique depuis un an et demi, chez nous en tout cas. On n'est pas loin sur le Bessan d'être aux alentours de 8 millions à 9 millions de litres à l'année. Ce qui est quand même assez considérable pour un biocarburant qui, initialement, était très difficile à imposer auprès des transporteurs.
Alors, est-ce que, oui, vous donnez le mot « imposer », est-ce que certains sont venus avec cette demande d'avoir quelque chose d'autre que des énergies fossiles?
Initialement, en fait, c'est plus par obligation, très honnêtement, qu'ils sont arrivés au biocarburant en raison de la transition énergétique, la décarbonation, etc. Et le fait, en effet, que depuis 2018, le baissant, on est un petit peu ce recul, le côté de ne pas avoir de problèmes techniques, mécaniques sur les camions ou chez les transporteurs, nous a quand même un petit peu facilité la tâche. Donc, initialement, c'est vraiment le changement qui faisait peur un petit peu aux utilisateurs. Et on se rend compte, avec le recul, avec les utilisations de gros groupes, etc., de transporteurs, que ça fonctionne et qu'on n'a pas de problème particulier avec le baissant et encore moins avec l'XTLDR.
Là, vos clients, ils ne vont pas racheter des véhicules pour accueillir le baissant ou le HVO. Donc, ils font du rétrofit.
En fait, il y a deux possibilités. Soit c'est des camions ou des véhicules qui sont déjà donc dans le parc en flotte captive, sur lequel donc on peut réaliser un rétrofit, ou c'est des nouveaux camions déjà prêts au baissant, bloqués baissant, et qui roulent uniquement au baissant. Oui. Donc, parce qu'il est possible de faire en fait un rétrofit en flexible, ce qu'on appelle un flexible. Il roule à la fois au gasoil parce qu'il n'est pas disponible en pompe, donc lorsqu'ils ont des grands trajets, de pouvoir se réapprovisionner. Et également au baissant, donc, qui est une facilité en fait pour les transporteurs. Donc ce sont les deux formules qui sont en général retenues selon le besoin du transporteur. Je dis le besoin parce que selon les zones à accéder en ZFE, par exemple, s'ils ont besoin d'un critère 1, donc là ils vont acquérir un nouveau camion, un nouveau véhicule, bloqué baissant pour pouvoir accéder à ces ZFE, par exemple.
Ah oui, on est obligé d'être sur un véhicule 100% baissant.
Exactement, bloqué baissant, uniquement, pas de gasoil, classique.
Vous mettez à disposition la cuve?
Oui, ça dépend des transporteurs. Hein. Il y a certains qui ont déjà une cuve, qui avaient plusieurs cuves et qui en ont dédié une donc au baissant ou à l'XTL. Hein. Et d'autres qui n'ont pas de cuve, pardon, qui ont l'habitude d'avoir des cartes, vous savez, AS24 ou autre, hein, pour aller s'approvisionner. Nous installons donc les cuves, des mises à disposition selon leurs besoins, 10, 15, 20, 30, 40, 80 mètres cubes. Ça dépend de la flotte à reconvertir.
Est-ce qu'il y a du partage avec d'autres transporteurs qui vont aller se ravitailler sur une cuve, un point central, pas très loin de leur dépôt?
Alors ça, c'est la bonne nouvelle de l'année, c'est-à-dire qu'il y a eu des arrêtés qui sont parus à la fin de l'été pour alléger un petit peu les usages de ces nouveaux carburants. C'est-à-dire qu'initialement, on avait un cadre réglementaire assez strict, ce qu'on appelle la notion de flotte captive. Hein. En fait, il fallait pouvoir connaître l'usage défini du nombre de camions, etc. Il fallait qu'ils appartiennent à celui qui détenait la cuve, etc. Donc ça, c'était un cadre un peu trop strict, qui était très bien pour démarrer, pour tester, et justement, ce que disait mon confrère, montrer qu'il n'y avait pas de problème technique et qu'il n'y avait pas des centaines de camions en panne sur les routes. Mais globalement, à partir du moment où on a prouvé que ça marchait, il fallait un petit peu déverrouiller ce système. Donc un arrêté est paru en fin d'été pour permettre justement le partage de cuves, soit avec des sous-traitants, soit en intragroupe. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de transporteurs, de sociétés qui sont intégrés avec des filiales régionales. Et donc, il n'y avait pas de raison que la filiale du Nord, quand elle descend dans le Sud, ne puisse pas se ravitailler sur la cuve de la filiale du Sud. Donc voilà, ça, c'est des cas d'usage qui ont été ouverts depuis récemment.
2 mois.
J'en profite aussi pour dire que sur la partie XTL, ça va encore plus loin, puisque maintenant, le XTL est autorisé en station publique. Non seulement les professionnels, mais aussi les particuliers vont pouvoir utiliser ces produits-là. Et puis, plus largement, toutes les flottes au sens large, professionnelles, hein, que ce soit les véhicules des commerciaux, les véhicules utilitaires légers, etc. Donc là, ça va permettre un renforcement des cas d'usage de ces produits.
Là, quand on va avoir cette flexibilité, on va retomber toujours dans la même obligation d'avoir un véhicule rétrofité, même pour le XTL, d'aller s'approvisionner.
Le XTL ne nécessite pas de rétrofit. C'est l'un des arguments en faveur du XTL par rapport au baissant, même si après, le rétrofit se gère très bien. Donc, ce n'est pas en soi quelque chose de complexe. Mais par contre, pour un particulier, effectivement, lui ne va pas rétrofiter et faire des dépenses sur son véhicule pour utiliser un biocarburant. Donc, l'avantage du XTL à la pompe, c'est celui-ci. La majeure partie des véhicules diesel existants aujourd'hui sur le parc sont compatibles.
Aujourd'hui, il y a une différence de prix. Déjà entre le diesel et un biocarburant, et puis entre les biocarburants.
Alors ça, c'est une grosse problématique.
C'est vrai.
Non, mais effectivement...
Donc c'est plus cher.
C'est plus cher. Mais je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, penser qu'on va faire une transition énergétique moins chère que du fossile, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut des aides de l'État qui, aujourd'hui, on le voit bien, n'est plus en capacité d'aider cette transition. Donc, la transition énergétique a un coût. Donc, le biocarburant est plus cher. Ceci dit, il existe effectivement des cadres fiscaux différents d'un produit à l'autre, mais on pourrait élargir, hein. C'est vrai pour les biocarburants, mais c'est vrai pour l'électrique, l'hydrogène, le gaz, etc. Les fiscalités ne sont pas alignées. C'est quelque chose qui va sûrement devoir être revu dans les années à venir. Il y a une directive européenne qui demande l'alignement des fiscalités sur les énergies. Donc je pense qu'il va y avoir un peu de renouvellement sur cette politique-là en France. Mais aujourd'hui, en gros, le B100, qui est le produit franco-français, est très aidé fiscalement, ce qui explique que son prix est assez abordable et est tout à fait comparable au TCO d'un engin diesel. Par contre, le HVO, lui, n'est pas du tout aidé. Et donc, on se retrouve avec un surcoût par rapport au gazole qui reste assez limité, puisqu'on parle de l'ordre de 15 à 20 centimes du litre. Donc, ça reste acceptable, tout est relatif, parce qu'on est dans une période économique qui est complexe. Donc la question qu'on peut toujours poser, c'est au final, qui paye cette transition? Ben, il n'y a pas de secret, il faut bien que ce soit le consommateur final qui soit capable d'absorber ce surcoût. Et là, se retrouve toute la complexité de la chaîne pour transférer les surcoûts de nous, distributeurs d'énergie, jusqu'au client final qui achète un bien de consommation en supermarché, etc.
Donc le prix, finalement, le B100 étant un peu moins cher, l'offre, enfin, en tout cas la demande, est plutôt sur le B100.
Il y a des demandes pour les deux produits, en fait, en biocarburant, que ce soit le HVO XTL ou le B100. Après, tout dépend un petit peu des clients des transporteurs, parce que vous avez certains grands groupes, on va citer quelques-uns, La Paire, etc., donc, qui souhaitent que leurs transporteurs utilisent du biocarburant et parfois font même un effort au niveau des coûts de transport pour leur rajouter, contribuer entre guillemets pour les aider à utiliser des biocarburants. Et vous avez d'autres transporteurs qui, eux, sont pour répondre à d'autres appels d'offres où ils exigent des biocarburants ou une manière de décarboner qui peut être de l'électrique, qui peut être un biocarburant, donc qui n'ont pas forcément le retour ou d'aide financière, qui préfèrent aller sur du B100 parce que ça coûte un petit peu moins cher que le HVO et que le gazole classique. Parfois, on a certains clients qui utilisent les deux produits de l'HVO et du B100. Donc, ça dépend un petit peu des moyens, ça dépend un petit peu des investissements sur les nouveaux camions qu'ils peuvent avoir, parce que un camion bloqué B100 il coûte un petit peu plus cher qu'un camion classique, etc. Donc, ça dépend vraiment des typologies, des activités de chaque transporteur. Ou du consommateur, en fait, oui.
Et en termes de disponibilité, parce qu'on entend aussi il n'y aura pas assez de biocarburant pour tout le monde. C'est aussi pour ça qu'il y a d'autres énergies, comme l'hydrogène, l'électrique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des problèmes de disponibilité ou pas sur l'un ou l'autre des biocarburants?
Non, aujourd'hui, on est plutôt dans l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on est plutôt en surproduction européenne. Donc, il faut bien comprendre.
Européenne.
Tout à fait. Mondiale même, je dirais. On peut élargir, mais le gros point de consommation est l'Europe. C'est elle qui est un peu en avance sur l'usage des biocarburants au sens large dans les transports. Justement, l'Europe avait de grandes ambitions et les industriels ont investi pour mettre en place des unités de production et pour aussi accroître la capacité de production des usines déjà existantes. Or, il s'avère que depuis la crise ukrainienne, l'Europe a un peu revu. Alors, pas dans les directives, hein, on a toujours les mêmes objectifs, mais les pays qui ont transcrit les directives dans leur réglementation nationale, elles, parfois, ont revu à la baisse les objectifs nationaux. Je pense à la Suède, qui est passée de 30% d'incorporation à 6% l'année dernière, parce qu'elle trouvait que, justement, ça coûtait trop cher aux usagers. Donc ça pose des problèmes, et c'est toujours la problématique des visions politiques. Un industriel, il a besoin d'avoir une vision éloignée, une vision, voilà, exactement, long terme. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a aussi la problématique que le marché diesel baisse. Et souvent, les objectifs d'incorporation sont faits par rapport à une assiette qui est la consommation de carburant fossile équivalente. Donc, quand on est dans un marché diesel qui baisse, forcément, l'incorporation qui va dans ce marché, elle baisse aussi. Aujourd'hui, on a un déséquilibre offre-demande. On sait qu'il va être rééquilibré à l'horizon allez, 2026-2027, mais présentement, 2024-2025, on sait qu'on est en surproduction et assez net.
Comment aujourd'hui, on peut améliorer le bilan carbone d'un biocarburant? Globalement, c'est 70% de baisse, de réduction des émissions de gaz à effet de serre quand on utilise un biocarburant?
La baisse d'émissions, elle ne vient pas du biocarburant lui-même, mais de la façon dont il a été fabriqué. Souvent, on a tendance à dire, et peut-être que l'ADEME n'est pas assez, on va dire, pédagogique sur justement les facteurs d'émissions associés au biocarburant. Il faut bien comprendre que ce n'est pas le B100 qui est à moins 60, l'UXTL à moins 83, c'est plutôt le B100 de colza et un XTL base huile alimentaire usagée. Maintenant, si on change les matières premières utilisées pour produire ces biocarburants-là, on va changer totalement le facteur d'émission. Donc, il y a plusieurs solutions pour améliorer les bilans carbone des biocarburants. C'est de travailler sur cette matière première, qui est le gros du bilan carbone de ces solutions-là. Et la deuxième solution, c'est de travailler sur le process. Alors, je vais plutôt me concentrer d'abord sur cette partie matière première, parce que finalement, c'est l'action la plus significative qui permet d'améliorer les choses. Alors, sur la partie agricole...
Le colza, par exemple.
Le colza, typiquement, il existe maintenant un B100 bas carbone qui est fait à partir de graines de colza bas carbone. Ce n'est pas un coup de baguette magique qui permet de déclarer une graine de colza bas carbone. C'est qu'il y a eu tout un travail sur la parcelle agricole qui permet non pas de relâcher du CO2, mais au contraire de faire du stockage de CO2 dans le sol. Et c'est ce stockage qui va être répercuté sur la graine qui a été produite sur cette parcelle et qui, tout au long de la chaîne justement de production jusqu' chez le transporteur, on s'aperçoit qu'on peut améliorer. Alors, classiquement, un B100, c'est à moins 60. On peut aller à moins 80, moins 90% de réduction de CO2 sur un B100 bas carbone.
Donc voilà, c'est vraiment la production.
Tout à fait.
Alors, et après, c'est toute la chaîne de valeur dans le process aussi de fabrication. Bah,
qui va répercuter, effectivement.
C'est tout le process qu'il faut prendre en compte, en fait. Ce n'est pas simplement le produit fini, en fait.
Oui, c'est pas ce qui s'échappe du véhicule.
Exactement.
Comment on peut aider les transporteurs à basculer sur ces biocarburants?
Ben déjà, par le recul, l'expérience sur le B100, par exemple, ça fait depuis 2018 que le produit est utilisé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de problème technique, il n'y a pas de problème mécanique. En fait, ça fonctionne vraiment bien, d'une part. Et d'une autre part, justement aussi, comme je le disais tout à l'heure, en mettant à disposition une cuve, en participant financièrement au rétrofit, en participant financièrement au surentretien, parce que lorsqu'on utilise le B100, par exemple, au lieu de faire la vidange à 120 000, on devra le faire à 80 000 ou 60 000, ça dépend des constructeurs, des marques. Nous, en fait, un fournisseur qui aidons, c'est même pas l'État qui nous aide dans cette démarche-là, c'est nous qui aidons les transporteurs à passer à ce biocarburant-là. Mais le plus gros des défis, c'est de les mettre en confiance, en fait, de leur dire, écoutez, ça marche, c'est un produit fiable, disponible, et qui décarbone et qui coûte moins cher par rapport au gasoil classique. Je parle en particulier pour le B100. Mais, les habitudes ont la dent dure,
faire des retours d'expérience.
Je peux comprendre en même temps, parce que c'est leur outil de travail, c'est un camion en panne, c'est de l'argent perdu, c'est un chauffeur à payer, etc. Donc, c'est assez difficile, mais au fur et à mesure, on se rend compte maintenant, aussi par le fait que les normes RSE, le fait de décarboner, les appels d'offres où ils exigent des biocarburants ou la décarbonation, nous facilitent quand même depuis 2 ans, nous, assez la tâche.
Oui, il y a aussi 2 autres points. Il y en a un qui est sur la visibilité. Moi, j'aime bien parler toujours de visibilité. Il faut qu'à un moment donné, l'État donne un cadre qui soit assez pérenne. On l'a vu lors de la crise ukrainienne, le gaz s'est envolé et tous les transporteurs qui utilisaient les camions gaz se sont retrouvés un petit peu le bec dans l'eau, à devoir supporter des coûts faramineux tout seuls, bien souvent lâchés par leurs donneurs d'ordre. On a vu des parcs de véhicules gaz rester sur les parkings. Donc quand il n'y a pas d'accompagnement sur des énergies de transition, sur des énergies nouvelles, ça peut poser effectivement des problèmes. Parce que quand l'essentiel du marché est toujours sur une base gasoil, celui qui se détache de cette base, en fait, il est en risque. Donc comment on gère ce risque côté transporteur? Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, là, il est côté encore plus politique. Il y a des objectifs chez les donneurs d'ordre, des objectifs internes, bien souvent, qui ont du mal à être associés finalement un budget. Il faut que les donneurs d'ordre soient capables de mettre un coût associé à cette transition. Ce n'est pas toujours facile. Mais nous, quand on entend que des transporteurs ont un besoin de transition mais qui ne va pas être accompagné par son donneur d'ordre, c'est quand même assez embêtant parce que je pourrais vous expliquer le processus de transformation d'une graisse alimentaire qui va être collectée par petits bidons et qui va être transformée en gazole de synthèse. Bah, c'est quand même plus complexe que prendre du pétrole brut qui arrive par cargo de 100 000 tonnes au Havre et qui va être transformé en diesel. Donc il faut bien comprendre que bah, tout ça, il faut bien que quelqu'un paye. Et ça ne peut pas être le transporteur tout seul, parce qu'on sait déjà que lui, il a des marges réduites. Donc, il faut qu'il soit accompagné, y compris dans le long terme. Alors, sur nos solutions biocarburants,
il y a des aides.
Il y a des réversibilités, donc ce n'est pas dramatique. Quoique, sur du B100 irréversible, si un jour, il y a un changement de fiscalité, un changement de réglementation, quid du rétrofit vers le diesel, à nouveau. Donc ça pose oui pas mal de questions sur qui paye.
Il y a des aides ou pas?
Alors il y a une aide sur le B100 exclusif qui est une aide sur le suramortissement du véhicule qui permet voilà, et c'est que sur celui qui est exclusif, ce qui limite un peu les cas d'usage et encore pour que ça ait un intérêt d'avoir un suramortissement, il faut que l'entreprise gagne de l'argent.
C'est pas forcément toujours le cas.
C'est pas toujours le cas dans les entreprises de transport, surtout actuellement.
Merci, monsieur. Je vous retrouve très vite pour un prochain plateau sur la thématique du transport exceptionnel. À tout à l'heure et merci.